Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes en DAB+ ou sur radioallianceplus.fr. Je suis le docteur Jacques Jean, je produis et j'anime l'émission que vous écoutez et qui se nomme « Votre santé, un trésor ». Nous avons avec nous aujourd'hui un médecin, et un médecin ni moi, le docteur Roland Secchi-Tenerini. J'ai demandé au docteur Roland Secchi-Tenerini de réaliser ensemble trois émissions de « Votre santé, un trésor » et cela pour trois raisons. Premièrement, Roland est médecin ni moi et a eu une carrière singulière qui l'a mené jusqu'à Paris comme médecin spécialisé en santé publique. Il y a exercé en tant qu'inspecteur de santé publique, en santé scolaire, à la direction d'une région sanitaire, puis à celle d'un cabinet ministériel et au sein de l'inspection générale des affaires sociales. Il a été membre du jury d'entrée de l'ENA, l'École nationale d'administration, pour les questions sociales jusqu'en 2023 et a assuré pendant plusieurs années la présidence du jury du concours d'entrée à l'EHSP, l'École des hautes études de santé publique, pour les directeurs d'établissements sociaux ou médico-sociaux, il continue d'en être un des correcteurs des épreuves d'entrée. Il a été enseignant à l'École des hautes études de santé publique. À l'université, il a enseigné la santé publique et le droit sanitaire et social. Il a été professeur associé pendant 20 ans, d'abord à l'université d'Angers, puis à celle de Paris 1, Sorbonne, Panthéon. Il a réalisé des cours de Master 2 ou de préparation au concours de l'ENA. Il fallait réaliser une émission sur cette brillante carrière de médecin ni moi. En deuxième lieu, le diplôme de médecin généraliste en poche, il fallait que Roland s'installe. Comment se projeter dans l'avenir et ne pas se contenter de mettre nos pas dans ceux de nos aînés, médecins à l'acte, une notabilité recherchée, un confort et une aisance matérielle qui sied à cette profession. De l'autre côté du Rhône, où il fait ses premiers remplacements, se développaient à cette époque de nouvelles pratiques médicales au sein de centres de santé, pratiques pluriprofessionnelles autour du médecin généraliste, mêlant les soins à la personne, l'éducation pour la santé, les activités de prévention dans un lieu unique. Le patient bénéficiait du tiers payant, c'est-à-dire la non-avance de frais de consultation, et tous les praticiens, généralistes autant que spécialistes, étaient des salariés de la structure. Ce mode de pratique professionnelle était trouvé, il fallait le concrétiser. Cela fut rendu possible grâce et avec la complicité du docteur Jean-François Rey, qui, à l'époque, était le patron des centres de santé des Bouches-du-Rhône, gérés par la Mutuelle des Travailleurs. Il lui a fait confiance, il a su convaincre son administration mutualiste et surtout les financiers qu'il fallait investir dans une maison médicale hors des Bouches-du-Rhône. Pour la première fois dans le Gard à Nîmes, dans un quartier très populaire, le chemin bas d'Avignon. L'aventure débuta contre vent et marée car en 1977, l'opposition à cette forme nouvelle d'exercice médical était à son comble. Partout en France, aujourd'hui cette maison médicale de la rue Georges Braque a cédé sa place à une nouvelle structure plus spacieuse, mieux adaptée aux nouveaux besoins en santé, mais toujours implantée dans ce quartier initial au chemin bas et très apprécié des Nîmoises et des Nîmois. La maison de santé mutualiste Hugo Must se situe désormais au 490 rue André Marquès, toujours au chemin bas d'Avignon. Le docteur Guterres, gynécologue, obstétricien très connu à Nîmes, qui avait introduit la méthode d'accouchement sans douleur dans sa clinique et pour lequel nous avons réalisé une émission de « Votre santé, un trésor » en présence de sa fille et un patricien ORL très implanté dans le centre-ville, ont été partants pour l'aventure en venant dispenser une fois par semaine des consultations. Ils ont accepté le salariat et le tiers payant en 1978. Il se trouve que j'ai eu la joie de créer au sein de la maison santé mutuelle Hugo Must, gérée actuellement par le groupe Oxas, un groupement mutualiste, une consultation de la douleur et une consultation d'acupuncture pour subvenir aux besoins de populations trop souvent en situation précaire. J'avais ma deuxième émission. Troisièmement, Roland et aficionado. Un médecin aimant la corrida, surtout aujourd'hui, était intéressant pour moi en lui faisant évoquer médecine, déontologie médicale et corrida. Vous êtes donc président de la coordination des clubs taurins du Gard, à la demande de leur président, depuis maintenant près de 3 ans. C'était ma troisième émission. Alors bonjour à vous, docteur Roland Secchi-Tenerini, chers confrères, et un grand merci pour le temps que vous allez nous accorder durant ces 3 émissions.
Merci à vous de m'accueillir.
En premier lieu, racontez-nous, s'il vous plaît, vos origines. Pourquoi médecine et pourquoi la médecine de santé publique ? Nous évoquerons la maison médicale dans notre deuxième émission.
Ben, mes origines sont nimoises et cévenoles, par mon père d'abord.
Et par de quel côté des Cévennes?
L'Estréchure. Ah. Ma grand-mère est native de l'Estréchure, donc près de Saint-Jean, du Gard. Et puis Corse par mon grand-père, ayant vécu jusqu'à son service militaire à Propriano, sa ville de naissance. De l'autre côté, côté maternel, ce sont des immigrés italiens qui, fuyant Mussolini et le fascisme, se sont installés très modestement à Lyon dans les années 1930. Alors pourquoi cette attirance vers la médecine? Vous savez, à l'époque, dans les années 50-55, le médecin était pour ces gens-là un homme remarquable par son savoir, par la sagesse qu'il incarnait, par le réconfort et la chaleur humaine qu'il apportait dans les familles. Un exemple tout simple, mais qui est très significatif de l'époque. Quand il rentrait dans le logement que nous occupions, dans l'école de la Croix de Fer, ma mère était la concierge des écoles de filles et de garçons de la rue Montfand pendant plus de 20 ans, les draps étaient changés, signe du respect que nous portions à sa personne, quand il rentrait dans notre intimité. Une autre anecdote, des années plus tard, quelle ne fut pas mon étonnement et ma grande fierté quand, externe à Serre Cavalier, lors de la visite quotidienne des malades, de m'entendre interpeller au pied du lit d'un malade, devant tous mes camarades, par le docteur Monod, le chef du service, m'interpellant et me disant « C'est qui ? Vos amygdales, je les connais parfaitement. Il était 20 ans avant notre médecin de famille. Ah. » Je crois que le docteur Monod est pour beaucoup dans le choix de mon métier.
Alors, il faut rappeler que le docteur Monod est une personnalité à Nîmes, puisque c'est lui qui a créé la gérontologie à Serre Cavalier à Nîmes, et que c'est une personnalité. Et je compte bien faire une émission sur lui, mais je suis en train de chercher des intervenants, mais peut-être que ça vous intéresserait.
Et voilà, donc, tout simplement, à partir de là, l'université, la fac, nos enseignants avaient pour but de nous enseigner la médecine de l'individu, celle de la personne. Ils nous ont appris, et vous le savez très bien, mon cher confrère, le diagnostic des pathologies, de la thérapeutique, à partir de la sémiologie, l'étude des signes de la maladie, des symptômes ressentis exprimés dans le cadre du colloque singulier. Le prolongement, l'aboutissement de ces études de médecine, de cette formation professionnelle extrêmement complète, se trouvait tout naturellement, comme pour la grande majorité des étudiants dans mon cas, dans l'exercice de cette pratique individuelle, dans le cadre du colloque singulier entre le médecin et son malade au sein d'un cabinet de consultation.
Très bien. Mais alors, entre le choix de la médecine de consultation, de cabinet que vous venez d'évoquer, de visite à domicile, et vous êtes tourné vers la santé publique. Est-ce que ce changement, cette adaptation, parce que la santé publique, c'est toujours la médecine. Donc d'abord, expliquez-nous en deux mots ce qu'est la santé publique et expliquez-nous cette conversion de la médecine de consultation à la pratique de la médecine santé publique.
Mais, si vous voulez, dans ma pratique libérale, je me suis souvent interrogé au quotidien sur les rapports entre soins curatifs et prévention. Dans la pratique, une fois le diagnostic posé, par exemple, prenons celui d'une angine de poitrine, se posait pour moi la question de la suppression des facteurs de risque ou plus modestement de la gestion de ces facteurs par le malade. Ces facteurs de risque qui sont à l'origine de cette pathologie, comme l'alimentation, le tabagisme, l'alcoolisme, les addictions, le stress. J'ai perçu assez rapidement que si nous pouvions prescrire des médicaments indispensables à la gestion de la crise, de la maladie, il était extrêmement complexe, dans le cadre du colloque singulier, de cette relation bilatérale avec son malade, de traiter de la gestion de ces facteurs de risque communs à une population, mais en même temps spécifiques de chaque individu. D'autant plus que nos études ne nous formaient pas, à ce moment-là, à cet aspect de la santé.
Il faut reconnaître qu'à l'époque, on a fait à peu près les études en même temps, il y avait peu de santé publique. On l'abordait en sixième année sur 4 heures, 5 heures.
Exactement, on ne faisait pas de prévention. Voilà, la prévention était un mot inconnu quasiment des études de médecine.
La prévention existait, mais c'était pas la cardiologie. Quoi, hein, c'était... Voilà.
Alors, cette démarche thérapeutique nouvelle, de prévention, d'éducation. Elle a trouvé son qualificatif par le terme d'éducation thérapeutique du patient, dans le cadre du colloque singulier.
Oui.
Et ce terme a été consacré quelques 30 ans plus tard par la loi du 21 juillet 2009, dont j'en ai été modestement la plume pour cette partie-là.
Oui.
Cette éducation thérapeutique, donc ce qu'on va expliquer aux parents, aux patients pour qu'ils puissent effectivement gérer sa maladie, elle doit s'appuyer, elle, sur une démarche beaucoup plus collective, beaucoup plus sociale, celle de la prévention des risques.
Oui.
Et de son corollaire, celle de la connaissance de la diffusion des pathologies au sein des populations.
Mmh.
On voit bien le chaînage qu'il y a de ce qui est en amont de la maladie et de ce qui est, j'allais dire, en aval de la maladie, où il y a une dimension d'éducation thérapeutique. En amont, c'est la prévention des risques.
Oui.
En aval, c'est l'éducation thérapeutique du patient.
Alors, c'est très intéressant parce que j'ai été très investi en tant qu'élu au niveau régional dans le cadre de la profession médicale sur l'éducation, à l'époque de la santé. On dit éducation à la santé, éducation du malade. Donc, c'est très, très important. Ça mériterait une émission à part entière. Je l'ai en tête, surtout pour des pathologies chroniques, comme le diabète, par exemple. Alors, ce qui est très intéressant, et vous m'arrêtez si je dis des bêtises, mais je ne crois pas que j'en dirais, puisque je l'ai pratiqué, j'ai milité, j'ai tout fait pour que ça existe. Il y a une nouvelle notion, c'est le patient spécialiste, le patient qui devient expert, qui devient thérapeute. C'est-à-dire que c'est une médecine de prévention où il y a un professionnel de santé, pas forcément un médecin. Dans le cas du diabète, ça peut être une infirmière qui est aussi compétente, donc pas forcément un médecin. Ça peut être un kinésithérapeute pour certaines pathologies. Ça peut être un podologue pour le diabète et un patient expert. Et c'est une prise en charge du patient à deux, un couple. Et donc ça, c'est très, très intéressant. Et le patient devient spécialiste de sa maladie et s'autogère, oui, sa pathologie. Donc vous étiez un précurseur de cette médecine, parce que c'est une vraie médecine.
C'est une vraie médecine.
C'est une vraie médecine autant que...
Une dimension.
Que, voilà, c'est une nouvelle médecine. Alors malheureusement, il y a peu de retombées, on voit peu de retombées. Alors à l'hôpital, ça marche bien. On a fait partie de groupes de travaux, ça se fait, notamment avec pathologies chroniques. Mais en ville, c'est quand même difficile. Bon. Donc...
C'est cette voie-là, en fait,
voilà,
que j'ai, qui me passionnait.
Donc la santé publique, la médecine de santé publique, pour vous, ça a été une nouvelle forme de médecine et où, dans laquelle vous avez pris autant de plaisir que la médecine de consultation et que le colloque singulier, comme vous avez dit, c'est-à-dire la relation particulière qui existe entre un médecin et son patient, ou plutôt entre le patient et le médecin qui vient consulter.
Absolument. Je vous prenais là aussi un exemple. Lorsque j'ai fait ce choix qui me passionnait, hein, et c'est naturellement que j'ai fait ce choix-là, j'ai laissé tomber le stéthoscope.
Voilà.
Très,
oui.
Très, oui. Très, très précis. J'ai laissé tomber le stéthoscope. Et pourtant, je me suis senti parfaitement médecin.
Vous êtes toujours resté médecin.
Je suis resté médecin et j'ai été effectivement convaincu de cette nouvelle approche de la santé, du soin, à partir de ce travail d'éducation thérapeutique et de prévention. Et pendant 40 ans, pratiquement, j'ai cherché à répondre en pratique à deux interrogations, quelles que soient les différentes fonctions que j'ai pu occuper. Quelle action devons-nous mener collectivement pour contribuer à la réduction des inégalités en santé?
Oui.
Et lorsque je parle des inégalités, oui. C'est pas forcément... économique,
oui, oui, ça peut
aux
être,
inégalités de façon générale en santé,
etc.
Que ce soit dans l'émergence de telle ou telle pathologie ou dans l'accès aux soins de chaque groupe de population. Première question. Et deuxième question, quelle voie proposer pour que cette approche collective puisse bénéficier à chaque individu particulier?
Voilà. Donc là, vous répondez une question que je pose dans cette émission, c'est-à-dire les différentes formes de médecine qui existent et que j'essaye d'illustrer par cette émission. Je vous propose une trêve musicale avec une musique de Schumann, symphonie numéro 1, Le Printemps. Vous écoutez Votre Santé, un trésor, une émission produite et animée par le docteur Jacques Jombe sur Radio Alliance Plus, sur 103.2 FM. Nous recevons aujourd'hui le docteur Roland Tenerini. Alors, vous vouliez nous donner une définition de la santé publique.
Oui, parce que elle est importante par rapport à la médecine de soins et elle englobe effectivement aussi la santé, la médecine de soins. C'est l'OMS qui l'a définie en 52. La santé publique, c'est la science de l'art de prévenir les maladies, de prolonger la vie et la vitalité mentale et physique des individus. Ce qui est important de préciser, c'est qu'aujourd'hui, la santé publique est une activité autonome qui s'occupe de l'état sanitaire d'une collectivité, de la santé globale des populations, des besoins de santé des individus sous tous leurs aspects, curatifs, préventifs, éducatifs et sociaux. La santé publique, c'est à la fois une discipline bien identifiée et une pratique au sein de laquelle les médecins de santé publique ont toute leur place. Je suis moi-même spécialisé en santé publique et en médecine sociale.
Alors ça, c'est important. Il y a une spécialité médicale, santé publique.
Santé publique. Mais en même temps, on est aux côtés, vous l'avez souligné tout à l'heure, et je crois que ça c'est fondamental, on est aux côtés de nombreux autres intervenants à multiples compétences, statisticiens, informaticiens, épidémiologistes, économistes de la santé, chefs de projet, planificateurs de la santé, éducateurs pour la santé. Voilà ce que la santé publique aujourd'hui représente dans une démarche sanitaire, à la fois spécialité certes de médecine, mais au-delà de ça, une pratique sociale importante dans lequel des équipes s'impliquent complètement pour réfléchir à ces problèmes d'inégalité d'accès aux soins ou d'inégalité en santé.
Ça, c'est fondamental parce que ça montre bien que la médecine n'est pas une médecine que de cabinet. Et la médecine peut être une médecine de cabinet, mais elle peut être une médecine d'urgence, hospitalière, privée, publique, de santé publique, d'épistémiologie. Puis il y a des choses dans la médecine, ça touche à tout, c'est transversal. Par exemple, moi j'ai fait de l'ingénierie de projet pour en effet. Vous parliez d'épistémiologie, enfin je veux dire, il y a énormément de choses. Alors, une fois que vous êtes monté à Paris, comme on dit, hein, pour continuer votre carrière, et donc vous avez été enseignant. Alors, pour moi qui ai été aussi enseignant universitaire, l'enseignement est magnifique. Quel a été votre parcours d'enseignement jusqu'à votre nomination comme professeur associé, d'abord à l'Université d'Angers, puis à celle de Paris 1, Sorbonne Panthéon?
Alors, je pourrais dire que lorsque je suis monté, entre guillemets, à Paris, c'est pour effectivement... Ça s'est concrétisé par le diplôme national de santé publique délivré par l'école des hautes études en santé publique. J'ai eu un parcours professionnel auprès de populations sur le terrain, en santé scolaire à Nancy ou à Montpellier, au sein de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, en particulier 5 ans à la tête de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Corse. Et si vous me permettez, je ne peux pas ne pas évoquer ici la mémoire du préfet Erignac, Claude Erignac, dont j'ai été son collaborateur direct pendant de nombreuses années en matière sanitaire et sociale sur l'île, jusqu'à son assassinat en février 1998. C'est ensuite, effectivement, après cette période de direction régionale, que j'ai intégré en 1999 l'inspection générale des affaires sociales au sein du ministère de la Santé. J'y suis resté jusqu'à ma retraite en 2017. Oui. Et peut-être que, avant d'aborder la question de l'enseignement, je voudrais dire combien effectivement, pour un médecin de santé publique, ce passage, ce travail au sein de l'inspection générale m'a fortement passionné. On a fait des missions, j'en citerai que 3, mais ça donne l'exemple aussi de la réalisation de ce qu'est la santé publique. Elles ont souvent, ces situations, eu des points de départ des situations dramatiques. Mais c'est un des rôles d'une inspection générale que de traiter de ces situations complexes. Elles ont donné lieu souvent à des propositions de modification de politique à mettre en œuvre pour éviter de tels drames. Par exemple, l'assassinat d'un jeune homme par un malade mental délirant qui m'a conduit à être le rapporteur général d'un rapport sur les missions et l'organisation de la santé mentale et de la psychiatrie en France. Le décès de bébés prématurés, vous avez pu en entendre parler dans un service de réanimation néonatale d'un CHU, dont les suites au rapport que nous avions collectivement fait ont donné lieu à l'écriture d'une circulaire enrichissant le fonctionnement des services de réanimation néonatale dans les CHU.
Oui.
troisième exemple, la mort provoquée d'un bébé dans une crèche par un autre enfant et la nécessité de modifier les dispositifs de prise en charge et le fonctionnement de ces crèches. Vous voyez, là on est dans le concret.
Oui.
Situation dramatique, exceptionnelle bien évidemment, mais qui donne lieu à une réflexion souvent, le plus souvent collective, et qui amène effectivement à la modification de politiques publiques.
Oui, donc c'est une vraie médecine, parce que c'est une médecine qui modifie une pratique qui arrive à son bout, ou qui est pervertie, ou qui est mauvaise. Et donc votre expertise, votre connaissance modifie, et donc c'est vraiment un acte de soin.
Collectif et individuel.
Voilà, vous ne le faites pas directement, mais vous le faites indirectement, et vous améliorez les soins, et donc c'est extrêmement nécessaire. Et des médecins comme vous, ben, ils font progresser la santé, progresser l'évolution de la santé. Alors l'enseignement à l'école des hautes études en santé publique, à l'université, enseignant la santé publique et le droit sanitaire et social, avez-vous encore des contacts, des avis à donner ou des relations avec vos anciens étudiants qui sont maintenant des responsables?
Alors, j'allais dire non. Non, parce que...
Parce que vous êtes descendu à Nîmes.
Voilà, parce que j'ai tourné la page. 40 ans de pratique étaient importants, mais il faut profiter, si vous voulez, de la période où on cesse l'activité pour aller voir, explorer d'autres domaines.
Ça sera le voilà. Thème d'une des émissions.
Mais si vous voulez, sur l'enseignement, c'est ça qui est assez intéressant. J'ai eu cette passion de l'enseignement, vous posiez la question tout à l'heure sur cet enseignement. Dès la troisième année de mes études de médecine, j'ai intégré l'enseignement au CREPS.
Oui, oui.
Les anciennes formations de professeurs d'éducation physique et sportive. Il s'avère que le responsable de cet enseignement universitaire de ce centre a été un de mes professeurs d'éducation physique et sportive dans les années de lycée. J'étais resté en contact avec lui et il m'a confié le cours de physiologie en lien avec le laboratoire de physiologie de Montpellier pour ses promotions de jeunes qui souhaitaient devenir prof de gym. Ça a été le premier pas.
Le début de votre carrière d'enseignant.
Voilà. Et depuis ce temps-là, l'intérêt pour l'enseignement ne m'a plus quitté. Des écoles d'infirmières à celles de sages-femmes, des étudiants de l'école des hautes études en santé publique à l'université, j'ai enseigné la santé publique et le droit sanitaire et social. Vous l'avez rappelé, j'ai pu mettre pendant ces 20 ans de professeur associé, j'ai pu transmettre mon expérience et mes connaissances, tentant de faire comprendre aux étudiants ce qu'était la santé de chaque individu dans son environnement, personnel et collectif, de s'interroger sur ces facteurs de risque qui peuvent altérer la bonne santé. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai toujours fait de l'enseignement. Alors, est-ce que c'était prémonitoire de ma vie dans une école primaire ? Auprès d'enseignants et de sites, pourquoi pas, j'en sais rien, on va s'arrêter là.
Mais quand on fait la médecine, on fait toujours de l'enseignement. En santé publique et en médecine de prévention, on fait l'enseignement. Absolument. Le médecin, même en cabinet, explique. Les gens, de plus en plus, demandent des explications. Surtout qu'ils ont accès à une surabondance d'explications par les différents médias. Donc, ils sont bien souvent au courant, d'une manière juste ou d'une manière fausse. Hein. Donc, le professionnel de santé, quel qu'il soit, sage-femme, infirmière, orthophoniste, médecin, kiné, kinésithérapeute, fait de l'enseignement en disant « ça, c'est vrai, ça, c'est pas reconnu, ça, on sait pas ». Donc, c'est vrai, il y a ce côté. Mais c'est pas quand même l'enseignement universitaire ou dans une école. C'est un autre domaine, mais quand même, le praticien de soins est un enseignant. Eh bien, il nous reste plus qu'à vous remercier, docteur Roland Secchi-Tenerini, pour le temps que vous nous avez donné et vous donner rendez-vous pour une seconde émission sur la maison médicale Hugo Must du 490 rue André Marquès au chemin bas d'Avignon. J'ai l'habitude de finir mes émissions par une rubrique de fin d'émission des livres sur la santé aujourd'hui. Alors, pour vous, citez-moi trois livres qui sont importants pour vous.
Alors, peut-être... celui qui m'a marqué le plus dans ma formation, c'est La planification de la santé, concept, méthode et stratégie. C'est un bouquin canadien. Et c'est vrai que là aussi, dans cette période de formation, il y a maintenant quelques 40 ans, nous nous appuyons vraiment sur l'expérience et sur les pratiques au Canada.
Anglo-saxonne, oui.
Anglo-saxonne. Et donc là, ça, c'est un bouquin cardinal pour ma formation qui m'a complètement... transformé dans ma vision, effectivement, de ce qu'était la santé et la santé publique. Le deuxième, c'est Santé et cadre de vie, c'est une expérience mutualiste de Marseille par Louis Calisti et Jean-François Rey, qui m'a amené directement à la maison médicale. Enfin, j'ai toujours été intéressé par la biologie et bien évidemment, je suis tombé sur ce bouquin de Jacques Monod, Le hasard et la nécessité, un essai sur la philosophie naturelle de la biologie moderne. C'est un livre qui est daté actuellement, mais qui est vraiment d'actualité quand on le reprend et quand on le relit.
Mais les livres sont toujours des marques, même s'ils sont dépassés, en fait, des fois, et ils sont devançants. Alors, je vous remercie encore de tout ce que vous nous avez apporté. Je remercie Louis à la technique et Chanel au visuel. Je vous renouvelle mon annonce sur l'adhésion à Radio Alliance Plus à laquelle vous pouvez souscrire pour que notre radio puisse vivre. Merci d'avance. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre attention et de l'écoute de Votre Santé, un trésor sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. À bientôt. Je reste votre bien dévoué.